Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. En cette nuit bénite de Noël, où le Verbe fait chair est apparu pour la première fois aux yeux des hommes, sous l'aspect d'un enfant, c'est à vous, chers enfants, que ces quelques mots sont adressés. Et puisque nous sommes la nuit de Noël, reprenons-en, si vous le voulez bien, le récit, en essayant de le compléter un peu, afin d'en tirer des leçons. Car si Jésus, tout bébé, ne peut pas encore prêcher, il vient du moins nous enseigner par son exemple de grandes leçons. Écoutez bien, peut-être que papa et maman vous demanderont demain de leur redire les leçons. Et il y en a trois. Trois leçons. Nous sommes en Terre Sainte, la Terre Promise, un peu au nord, pas très loin du lac de Tibériade, dans un petit village qui s'appelle Nazareth. Nous sommes en décembre, il fait froid. Un homme, d'une trentaine d'années, rentre dans une pauvre maison. Son visage est soucieux. Marie, une toute jeune fille, ravissante de pureté et d'innocence, se lève péniblement pour accueillir son époux. Il est visible qu'elle attend un enfant et que le temps de la naissance est tout proche. Joseph, tu as l'air soucieux. Sans rien dire, Joseph contemple sa toute jeune et si frêle épouse, puis, un peu embarrassé, l'empereur a décidé un recensement. En un instant, la Sainte Vierge a compris tout ce que cela signifie. Cela veut dire, ni plus ni moins, quitter pour plusieurs semaines cette petite maison, pauvre certes, mais suffisante, avec la crainte de la retrouver pillée ou dévastée. D'abandonner tout ce qui avait été préparé pour la venue du bébé, le berceau, les linges, mais aussi le voisinage de personnes connues qui auraient pu aider pour la naissance et toutes les commodités qu'offre une demeure bien à soi. Et pourquoi ? Pour se lancer à l'aventure, dans le froid et l'inconnu, alors que la naissance du bébé peut arriver d'un jour à l'autre. Tout cela pour satisfaire le caprice d'un empereur. Que va répondre la très sainte Vierge ? Ainsi le veut la volonté divine, Joseph. Il faut que les prophéties s'accomplissent. L'enfant devait naître à Bethléem. Au-delà de la volonté de l'empereur, Notre-Dame voit la volonté de Dieu. Arrêtons un instant le récit, mes chers enfants, pour en tirer la première leçon. Que de fois, lorsque vous êtes contrariés dans vos désirs, dans vos envies, dans vos projets, vous vous mettez à murmurer, à grogner, à râler, quelquefois même à vous mettre en colère. Et pourtant, à travers la volonté de papa, de maman, de la maîtresse, du père, bref, de toute autorité, c'est la volonté de Dieu qui s'exprime. Et Dieu se sert aussi, bien souvent, des petits incidents journaliers pour nous indiquer sa volonté. Regardez la Sainte Vierge, comment elle accueille paisiblement, ce qui ne veut pas dire sans douleur, mais paisiblement, la volonté de Dieu, pourtant si dure, si contrariante pour une jeune maman. Chers enfants, si dès maintenant, vous ne faites pas un effort pour reconnaître la volonté de Dieu à travers les autorités et dans les petits accidents de la vie, vous ne le ferez pas quand vous serez adulte. Et ce sera des emportements, des impatiences, des colères, des péchés à n'en plus finir, pour rien. Car cela ne change jamais rien de s'emporter. Donc, première leçon, savoir voir la volonté de Dieu partout, même dans ce qui vient nous contrarier, et y obéir doucement, paisiblement, sans grogner. Mais reprenons notre récit. Les bagages ont été vite faits. Pensez donc, la très sainte Vierge Marie doit s'asseoir sur l'âne à cause de son petit bébé qui prend beaucoup de place et la fatigue vite. Donc, il ne reste plus grand place pour le reste. D'ailleurs, la Sainte Famille est pauvre. Et l'on se met en route, En caravane, c'est plus sûr contre les bandits, c'est aussi plus bruyant. Quel fut ce voyage pour Marie et Joseph? Il faut tâcher de se l'imaginer. Ils n'avaient pas, comme nous, le confort moderne. Pas de voiture, pas de train, pas de chauffage. D'abord, on ne voyage que de jour, c'est-à-dire de plus ou moins 8h30 à 17h. Nous sommes en hiver. Le voyage probable était de 120 à 165 kilomètres, ce qui veut dire qu'il a duré probablement plusieurs jours, voire une semaine, et peut-être avec une journée d'arrêt forcé, le jour du sabbat. La très sainte Vierge Marie est assise de travers, pour les plus grands en Amazone, si vous préférez, sur l'âne, pendant toute la journée, ce qui n'est pas du tout confortable. Qu'a-t-elle pour se protéger du froid? Elle n'a pas vos chauds manteaux. Et pour se protéger de la pluie, elle n'a pas non plus de parapluie. Aussi doit-elle rapidement grelotter sur sa monture. Saint Joseph tient l'âne et il a fort à faire pour conduire cette bête le plus doucement possible à travers les mauvaises routes pour éviter une chute à sa femme. Le midi, on s'arrête. Dans un restaurant chauffé? Non, bien sûr que non. Alors, de quoi pouvaient se nourrir Marie et Joseph en ce mois de décembre? Du pain, de l'eau, peut-être du fromage. Et c'est probablement tout. Et c'est certainement insuffisant pour réchauffer la très sainte Vierge, car on n'a pas le temps d'allumer un feu. Et le soir? Oh, pas d'hôtel. On dort à la belle étoile, autour d'un feu, ou, au mieux, dans un caravansérail. C'est une sorte de cour entourée de murs qui protège du vent, mais pas de la pluie. Et pour se réchauffer, une couverture, peut-être deux. Et Saint Joseph, lui? Eh bien, il ne sait pas, comme vous, que l'enfant Dieu doit naître le 24 décembre à minuit. Aussi vit-il dans une certaine anxiété. Voyez-vous, les enfants, quand une maman va donner naissance, on l'amène vite à l'hôpital pour que tout se passe bien. Mais là, il n'y avait pas d'hôpital. Même, il se passe quelquefois plusieurs heures sans qu'on puisse voir une maison. Alors, Saint Joseph a bien dû être un petit peu ennuyé, mais il ne le laisse pas voir. Ils vont donc, perdus au milieu de la caravane, extérieurement, Joseph et Marie sont des gens du commun. Un simple couple de pauvres gens. Mais quelle richesse intérieure de vie divine! Ils sont grands aux yeux de Dieu. Ici, les enfants, il faut tirer la deuxième leçon. Vous connaissez bien votre catéchisme. Vous savez que Jésus est Dieu et que Dieu est tout-puissant. Donc, l'enfant Jésus aurait très bien pu éviter toutes ses souffrances, et bien d'autres, à ses parents, puisqu'il est le Dieu Tout-Puissant. Est-ce que Jésus n'aimait pas son papa, sa maman? Si, bien sûr. Alors, mes chers enfants, retenez ceci toute votre vie. Si Jésus n'a pas épargné les souffrances à sa maman, et pourtant Dieu sait s'il l'aimait, c'est que cela est une marque d'amour de la part de Dieu. Oui, plus Dieu aime sa créature, plus il l'éprouve. Pourquoi cela? Parce que, depuis le péché originel, c'est le seul chemin pour aller au ciel, et qu'il est venu sur cette terre pour nous amener au ciel. Prenons une image. Attention, pour les plus petits, ce n'est qu'une image, donc ce n'est pas la réalité. Autrefois, entre la terre et le ciel, il y avait un pont. Et le péché originel a détruit ce pont, totalement détruit. Alors, pour permettre aux hommes de monter au ciel, Jésus a tendu une corde entre la terre et le ciel. Et pour que ce soit plus facile de monter, il a tendu une corde à nœuds. Les nœuds, ce sont les croix, les contrariétés, les soucis, les souffrances. Plus on doit monter haut au ciel, plus il y a de nœuds. Et que penseriez-vous, chers enfants, de quelqu'un qui supplierait Jésus, « Défaites tous les nœuds de la corde. Ô Jésus, faites qu'il n'y ait plus aucun nœud sur la corde. » Eh bien, vous penseriez, c'est stupide. Monter une corde lisse sur 300 000 km, cela va être difficile. Et pourtant, que de personnes, dès la première croix, dès le premier obstacle, dès la première épreuve, qui prient, qui supplient Jésus pour que la croix s'éloigne, qui vont jusqu'à se mettre en colère si Jésus ne les exauce pas. Mais c'est absurde et tellement injuste pour Jésus. Il faut bien, un jour ou l'autre, aller au ciel. Donc, il faut des épreuves. La deuxième leçon à tirer, chers enfants, c'est qu'il faut plus prier Jésus pour qu'il nous aide à accepter et porter la croix, plutôt que de le prier de nous décharger de la croix, d'éloigner la croix. Alors, terminons le récit. Arrivés à Bethléem, Joseph et Marie se font rejeter de partout. Jésus n'est pas né, qu'il est déjà rejeté, et par ceux qu'il est venu sauver. Et la Sainte Famille accepte encore et offre cette nouvelle souffrance, paisiblement, quoique douloureusement, se confiant dans la Providence, abandon surnaturel d'où naît la joie, la vraie joie, la seule durable. Joseph et Marie ne laissent pas gâcher leur joie par ces épreuves. C'est du secondaire. Le plus important, c'est que le Messie Sauveur tant attendu est là. C'est que les portes du ciel nous sont de nouveau ouvertes. Chers enfants, si ce soir, en rentrant de la messe de minuit, vous retrouvez la maison brûlée. Plus de chocolat, plus de cadeaux, plus de crèches, plus de guirlandes. Et la nuit a passé dans la voiture. Comment réagiriez-vous? Garderiez-vous votre joie? Et pourtant, la vraie joie de Noël, où se trouve-t-elle? Dans les cadeaux, les bonbons, les chocolats, les guirlandes? Non. Dans ce Dieu d'amour qui s'est fait enfant comme vous et qui s'est fait tellement petit que bientôt, dans quelques minutes, il descendra dans votre cœur. C'est là la vraie joie de Noël. Ah certes, Jésus veut que nous nous réjouissions à Noël. Mais attention, les enfants, à ne pas mettre toute votre joie dans les cadeaux, les guirlandes, les chocolats. Noël, c'est plus, bien plus que tout cela. Et voyez-vous, un jour, cela pourrait nous être enlevé, comme pour les enfants des Vendéens lors des guerres des Vendées, ou alors les enfants des Christéros lors de la guerre. Mais voyez-vous, la grâce de Noël, jamais personne ne pourra vous l'arracher. Et c'est cette grâce de Noël qui est la joie de Noël. Approchons-nous de la grotte bénie. La Vierge vient d'enfanter. Elle tient le nouveau-né dans ses bras. Ses yeux s'arrêtent sur le râtelier destiné aux moutons. Elle y couche doucement l'agneau de Dieu. Tout Dieu, tout le ciel est là. Les hommes, eux, n'y sont pas. Aujourd'hui, alors que Dieu venait pour eux, alors qu'il avait envoyé ses prophètes pour les préparer, de toutes ces créatures, seul l'homme a presque entièrement fait défaut. Et les pleurs du petit sauveur vont se heurter au mur de l'indifférente ingratitude des pécheurs. 2000 ans après, rien n'a changé. Qui, dans le monde, ce soir, fête la venue du sauveur? Un nombre infime. Et vous, chers enfants, comment allez-vous accueillir votre petit roi? Les anges vous l'ont indiqué tout à l'heure. Paix aux hommes de bonne volonté. Cette bonne volonté, qu'est-elle? Le désir de faire plaisir à Jésus en tout, quoi qu'il arrive. À ce désir de faire plaisir à Jésus est promis la paix. Et voilà la troisième leçon à tirer de Noël. la paix intérieure, la paix de l'âme, n'est pas à chercher en dehors des soucis, des peines, des afflictions. Elle se trouve dans une disponibilité totale au bon plaisir divin, comme la très sainte Vierge, comme saint Joseph. Et même si cette volonté divine est quelquefois crucifiante. Voyez-vous, ce qui a transformé, sanctifié le bon larron le Vendredi Saint, ce n'est pas d'avoir été descendu de la croix, décroché de la croix. Ce qui l'a sanctifié, c'est de l'avoir accepté par amour pour le bon Dieu. Alors, pour conclure, rappelons quelles sont ces trois leçons que nous devons tirer de Noël. Que faudra-t-il demander à Jésus tout à l'heure dans la communion? D'abord, de ne voir dans toutes les contrariétés, les difficultés, que le bon plaisir de Dieu. Puis, de s'y soumettre paisiblement, doucement. Enfin, de comprendre que Dieu s'y cache pour nous sanctifier, afin de pouvoir davantage nous combler au ciel. Et là est la seule et la vraie joie. Là est la seule et la vraie paix. Le comprendre, c'est jouir dès ici-bas du bonheur du ciel. C'est la grâce que je vous souhaite, mes chers enfants, en cette sainte nuit de Noël. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.